Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Steve Rivière. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Regarde ton voisin en t'asseyant et dis-lui, reçois ce matin la parole avec humilité. Alors frères et sœurs, je crois que plus que jamais, comme on a vu lors des deux célébrations vendredi soir et hier soir, que Dieu veut toucher les vies, restaurer les cœurs et il veut vous fortifier. Et s'il y a bien une qualité qui doit être inconditionnelle pour chaque chrétien de l'avoir, en tout cas, c'est l'humilité. C'est la qualité qu'il nous faut rechercher. Vous savez, je crois que l'ennemi a réellement déformé ce qu'est l'humilité parce que l'humilité permet au Dieu d'amener le réveil. L'humilité nous permet de marcher dans sa puissance. L'humilité attire la présence de Dieu. Et c'est vraiment humblement ce matin, par sa grâce, que je désire vous partager ce message, puisque je me demande qui peut être qualifié pour partager un message sur l'humilité. Mais en tout cas, par la grâce de Dieu, nous allons méditer sur la puissance de l'humilité, sur qu'est-ce qu'est l'humilité, pour que vous et moi, nous puissions nous rendre compte que c'est une vertu inconditionnelle. Je crois réellement qu'après l'amour vient l'humilité. Parce que l'humilité fait partie aussi de la nature et du caractère de Dieu. On pourrait dire, oui, Dieu est amour, mais Dieu est aussi humilité. Amen. Donc on va commencer par, qu'est-ce que l'humilité ? Vous avez une petite feuille, nous vous encourageons bien sûr de remplir, de prendre des notes et de méditer, parce que c'est la parole de Dieu qui nous donne la foi pour traverser les épreuves et les difficultés. Nous vous encourageons donc à méditer la parole de Dieu. Mais pour répondre à cette question, qu'est-ce que l'humilité ? On va voir d'abord ce que n'est pas l'humilité. Il y a 4 points, mais en réalité j'en ai rajouté un, il y en aura 5 ce matin. Nous allons commencer par voir ce que n'est pas l'humilité, pour bien cerner ce qu'est cette vertu. D'abord, l'humilité, ce n'est pas la pauvreté. C'est très important de comprendre que l'humilité, ce n'est pas la pauvreté. Quelqu'un peut être pauvre et très orgueilleux. Nous devons comprendre cela. Souvent, dans le monde, on confond humilité et pauvreté. Et si quelqu'un est pauvre, vit dans la misère, il vit dans des conditions humbles. Et si quelqu'un est pauvre, vraiment, le ministère servir Dieu, c'est plus tu es pauvre, et bien plus tu es humble. C'est faux. Plus tu es pauvre, et plus tu n'es pas humble du tout, ça n'a rien à voir. Proverbe 22, verset 4 nous dit ceci. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Donc on ne peut pas être humble et tout le temps pauvre. Puisque la conséquence de l'humilité, c'est que Dieu va te permettre d'être béni. Donc, si le pauvre est humble, on dit « Ah, c'est bien, là il est humble. » Mais si parce qu'il est humble, Dieu le bénit et il devient riche, parce qu'il est riche, il est plus humble. Il y a un souci. L'humilité, ce n'est pas ce que nous possédons. L'humilité ne dépend pas de la quantité de choses que nous possédons. L'humilité dépend de la qualité de notre cœur. C'est pas pareil. Une autre version dit « Soyez humble, sois humble et révère l'Éternel. Tu seras riche et honoré et tu recevras la vie. » Sois humble et révère l'Éternel, tu seras riche. Donc l'humilité, ce n'est pas la pauvreté. Abraham était humble et riche. Pareil pour Isaac. Pareil pour le roi David. Pareil pour le roi Salomon. Salomon était plus riche que nous tous ici, réunis. Donc nous ne devons pas confondre humilité et pauvreté. Deuxième point, l'humilité, ce n'est pas se dévaluer. L'humilité, ce n'est pas se dénigrer. L'humilité, ce n'est pas faire pitié. Ce n'est pas ne pas s'aimer. C'est pas ça l'humilité. Ce n'est pas constamment se condamner. Ce n'est pas constamment se rabaisser. C'est pas ça l'humilité. Le psaume 139, le roi David écrit au verset 13, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » C'est comme si le roi David disait, quand je regarde les étoiles, quand je regarde la terre, quand je regarde l'île de la Réunion, il ne l'avait pas encore vue, avec ses magnifiques montagnes, avec la plage, avec ce paysage grandiose. Waouh ! Tes œuvres sont extraordinaires. Mais dis-moi, je suis une créature encore plus merveilleuse. Je suis au top. L'humilité, ce n'est pas se dénigrer. L'humilité, ce n'est pas se dévaluer. Au contraire, l'humilité, c'est de dire ce que Dieu dit que tu es en lui. Si Jésus dit « Vous êtes la lumière », on est la lumière. Si Jésus dit « Vous êtes le sel », on est le sel. Si Jésus dit que tu es une créature si merveilleuse, alors tu es une créature si merveilleuse. Qui tu préfères écouter ? Ce que Dieu dit ou ce que le diable dit à ton sujet. L'humilité, ce n'est pas se dévaluer. Troisième point, l'humilité, ce n'est pas perdre son identité. Jean-Baptiste, dans Jean 3, verset 30, dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » C'est important de comprendre ici d'où vient l'humilité de Jean-Baptiste. Son humilité provenait du fait non pas qu'il se diminuait lui-même, mais du fait qu'il élevait Jésus. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que Jean-Baptiste n'essayait pas de se diminuer. Le fait d'élever Christ, il était diminué. Parce que quand tu rencontres vraiment qui est Jésus dans sa grandeur, tu n'as pas besoin de forcer pour diminuer. Tu diminues vraiment face à lui. C'est simple. Le danger, c'est que si lui ne grandit pas et que tu diminues sans lui, ça devient une fausse humilité. Parce que tu es une humilité factice, forcée. Crois-moi, si Jésus grandit dans ta vie et dans ma vie, toi et moi, on devient humble sans forcer. Qu'il croisse et que je diminue. Mais c'est d'abord qu'il croisse. S'il ne croisse pas et je diminue, il y a un souci. Il y a vraiment un souci. Mais s'il croisse, alors je vais diminuer facilement. Parce que sa grandeur, sa splendeur va tellement être manifeste que automatiquement, je vais m'effacer sans forcer. Donc c'est important de comprendre que l'humilité, ce n'est pas perdre son identité. Jean-Baptiste, lorsqu'il dit qu'il croisse que je diminue, savait qui il était. De la parole de Dieu, des hommes sont venus le voir et disent « Mais qui es-tu ? » Il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Il savait qui il était. Et il savait aussi qui Jésus était. La vraie humilité, c'est de connaître qui est Dieu et qui tu es en lui. Ça, c'est très important. C'est ça, celui qui est humble comprend qui est Dieu et qui il est. Donc, l'humilité, ce n'est pas perdre son identité. J'ai rajouté un point qui n'est pas sur vos feuilles, il y en a cinq en réalité. C'est l'humilité, ce n'est pas la timidité. C'est très important aussi de comprendre ça. L'humilité, ce n'est pas celui qui se sent timide. Et sa timidité, il excuse en disant ben, « Je suis humble. Tu sais, j'ose pas dire que Dieu a fait ci dans ma vie. J'ose pas venir prendre le micro et faire un témoignage de ce que Jésus a fait parce que je suis humble. » Non, tu as peur de prendre le micro. C'est pas pareil. N'excuse pas ta timidité en mettant ça sous le couvert de l'humilité. L'humilité, ce n'est pas la timidité. Jésus était humble, mais il n'était pas timide. C'est très important. La timidité provient de la honte. La honte est un esprit qui attaque l'identité. Le problème de la timidité, c'est que c'est une faiblesse de caractère. Et nous devons comprendre la chose suivante. C'est que l'humilité, c'est réellement fixer ses regards sur Dieu. Et pas fixer ses regards sur soi. L'humilité, c'est pas se vanter soi-même. Mais si tu es capable, entre guillemets, de mettre de l'accent, de regarder à ta force uniquement, c'est un souci peut-être, c'est sûr. Mais si tu regardes uniquement à ta faiblesse, la timidité, c'est aussi un problème. Et il ne faut pas donc regarder à sa faiblesse. Il ne faut pas donc regarder à soi, ni à ses forces, ni à ses faiblesses. Mais on pense que, oh, il faut savoir quelle est ta force, il faut savoir quelles sont tes faiblesses, il faut être capable de les reconnaître, mais il ne faut pas être dirigé par ta force ou par tes faiblesses. Il ne faut pas être dominé par ta force ou par tes faiblesses. C'est là d'où vient le problème. Vous savez, nous pouvons être humbles tout en étant confiants dans qui nous sommes en lui. Le roi David était humble. C'était un simple berger. Il était rejeté par son papa. Et quand le prophète Samuel arrive et lui présente, lui dit « Où sont tous tes fils ? Parce que Dieu m'a envoyé oindre un de tes fils roi. » Le papa de David fait passer 7 fils devant Samuel et il oublie David. Imagine, tu es papa dans ce lieu, tu oublies, tu es un marmaille. Tu oublies, tu ne fais pas un compte trop avec ce marmaille, quoi. Ah, oui, il y en a un autre. Il est où encore ? Avec les brebis là-bas. Donc le roi David était rejeté. Il était en train de s'occuper des bergers, il était humble. Mais quand il s'agissait d'affronter Goliath, il n'était pas timide. Il n'avait pas peur. Quand toute l'armée d'Israël et même le roi Saül avaient peur, David dit : c'est qui cet incirconcis ? Je vais régler son compte, moi. David dit pas c'est qui ce géant, c'est qui ce gars costaud, c'est qui ce gars-là, quoi. David dit pas ça. Il dit c'est qui ce sirop, pour traduire en langage courant d'aujourd'hui. C'est ce qu'il dit à l'époque, c'est qui cet incirconcis, c'est comme un juron. Et on dit c'est qui ce moins criant. Là on parle d'un gars humble, un homme selon le cœur de Dieu. Il est humble, mais il n'est pas timide. Il est humble, mais il est confiant dans son identité. Dans le Seigneur. Il sait en qui il croit, et il sait que celui en qui il croit le fait confiance. Donc, l'humilité, ce n'est pas la timidité. Dernier point, c'est le cinquième qui n'est pas sur vos feuilles. C'est l'humilité, ce n'est pas être simple d'esprit. Avez-vous déjà entendu cette expression ? Ah, tu sais, lui, il est humble d'esprit, il est simple d'esprit. Vous avez déjà entendu cette expression-là ? Humble d'esprit, ou simple d'esprit, voulant dire, ben, il est un peu bête, quoi. Vous avez déjà entendu ça ? Humble d'esprit, vous dites, c'est un bouc pas trop futé, quoi. Quelqu'un de pas trop futé. Écoutez ce que dit Proverbe 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. La sagesse est avec les humbles. En fin de compte, le gars humble, il est intelligent, il est sage, il est rusé, il n'est pas bête. Celui qui est humble n'est pas quelqu'un de bête. On a aussi trop souvent assimilé l'humilité à la simplicité d'esprit. Or, que la parole de Dieu dit clairement que la sagesse et avec les humbles. Donc le gars qui est humble, il est dangereux. La sagesse est avec lui. Il n'est pas bête. Donc l'humilité, ce n'est pas non plus être simple d'esprit. Donc, nous avons vu 5 points rapides sur ce que n'est pas l'humilité. Maintenant, on va voir 3 points sur ce qu'est l'humilité. Philippiens 2, 3 nous dit ceci. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est très important ce que ce verset dit. Que l'humilité fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça ne signifie pas qu'il faut se rabaisser. ça signifie qu'il faut exalter les autres. C'est différent. Donc l'humilité, par rapport à ce verset, c'est l'amour qui exalte l'autre. C'est l'amour qui fait passer les intérêts de l'autre avant ses intérêts. C'est l'amour qui préfère l'autre avant soi. Imaginez dans un couple que tout le temps, ça se passe comme ça. Que tout le temps, l'homme préfère les intérêts de la femme et tout le temps, la femme préfère les intérêts de l'homme. Waouh ! L'humilité, ce n'est donc pas s'élever, mais aider beaucoup à se relever. C'est important, ça. L'humilité, c'est non pas rabaisser l'autre, mais élever l'autre. L'humilité, c'est voir l'autre, non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Vous savez, Dieu, le Fils, s'est dépouillé de sa gloire, nous dit Philippiens 2, la parole de Dieu. Il s'est fait humble. Il s'est dépouillé de sa gloire pour venir nous élever, pour venir nous relever. En se dépouillant, c'est pas qu'il s'est dénigré. Jésus a toujours su qui il était. C'est pas parce que tu élèves l'autre que tu te rabaisses toi ou que tu te dénigres toi. Jésus savait qui il était. Il n'était pas affecté parce que les gens pensaient de lui. Il savait ce que Dieu pensait de lui. L'humilité, c'est l'amour qui exalte l'autre. Deuxième point, ce qu'est l'humilité. Psaume 34, verset 3 nous dit ceci. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble pour ce qu'il est. Waouh ! Le roi David dit, mon sujet de fierté, c'est Dieu. Mon sujet de fierté, c'est Jésus. L'humilité, c'est vanter Dieu. L'humilité, c'est le vanter, être fier de Dieu. Comme un papa qui peut être fier de ses enfants et qui va parler de ses enfants en disant, tu vois, mes enfants, tati, tatata, mes enfants, tati, tatata. Il élève. Il doit faire pareil pour Dieu. Le roi David dit, l'humilité, mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Troisième point, Galates 6, verset 14, nous dit ceci. En ce qui me concerne, je veux en aucun prix placer ma fierté ailleurs que dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Par elle, la croix. En effet, le monde du péché a été crucifié pour moi, de même que moi, je l'ai été pour ce monde. L'humilité, écoutez bien ceci, on a vu tout à l'heure, ce n'est pas penser moindre de soi, mais l'humilité, c'est moins penser à soi. C'est pas pareil. L'humilité, ce n'est pas penser moindre de soi, se dévaluer. L'humilité, c'est moins penser à soi. Parce que ici, dans Galates 6, lorsque l'apôtre Paul dit, je vais mettre ma fierté, je mets ma fierté dans la croix de Jésus, parce que le monde était crucifié pour moi, comme moi, je le suis pour le monde. Le moi est crucifié à la croix. L'ego est crucifié à la croix. Et quand quelqu'un est concentré sur ses faiblesses, il est concentré sur le moi. Lorsque tu vis comme une victime, tu es concentré sur le moi. Lorsque tu es toujours en train de te dénigrer, t'accuser, je suis rien, je suis malade, je suis nul, je suis pas bien, c'est le moi qui est au centre. Et tu penses moins de toi. C'est pas ça l'humilité. L'humilité, ce n'est pas penser moindre de soi. L'humilité, c'est moins penser à soi. Parce que tu préfères penser aux autres. Ça ne veut pas dire que tu ne penses pas du tout à toi. Ça veut dire que tu exaltes les autres. C'est pas pareil. Parce que l'humilité, c'est aussi savoir qui on est. On a vu tout à l'heure, ce n'est pas perdre son identité, mais quelqu'un qui se fustige lui-même et qui s'amoindrit constamment dans sa pensée. Cette personne-là est centrée sur elle, sur ses faiblesses, sur ses carences. Et après, elle a du mal à s'aimer parce qu'elle se trouve nulle. Et Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais si tu t'aimes pas, c'est dur d'aimer l'autre. L'humilité, ce n'est pas penser moindre de soi, c'est moins penser à soi. Donc maintenant qu'on a vu quelques points sur ce que n'est pas l'humilité et quelques points sur ce qu'est l'humilité, on va voir pourquoi est-il si essentiel de se revêtir d'humilité. Pourquoi c'est si important ? Il y a tellement de points qu'on va voir juste trois aujourd'hui. J'en ai au moins une dizaine avec vous. On va juste voir trois points sur pourquoi il est crucial de se revêtir d'humilité. Colossiens 3, 12 nous dit « Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime. » Tu sais, c'est bon ça. Dieu t'aime. Et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Revêtez-vous. Tout le monde est venu ici habillé, gloire à Dieu. Se revêtir n'est pas accidentel. Tu ne te lèves pas de ton lit en te disant « linge, viens sur moi ». Faut que tu enlèves ton pyjama, tu remets l'autre linge. Se revêtir demande d'être intentionnel. Si tu préfères, tu n'es pas habillé comme ça ce matin par accident. Me comprenez-vous ? Tu as réfléchi. Qu'est-ce que je vais mettre ? Ça, 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 ça. Certains réfléchissent beaucoup plus que d'autres. Mais c'est intentionnel de se revêtir. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que pour se revêtir d'humilité, c'est-à-dire pour devenir humble, ce n'est pas non plus accidentel. Tu n'étais pas habillé par accident et on ne devient pas humble par accident. Il faut choisir. Comme tu réfléchis quel linge je vais mettre, il faut que tu réfléchisses comment faire pour être plus humble. C'est ce que Dieu veut dire ici lorsqu'il dit « revêtez-vous ». Personne ici parmi nous ne naît humble. On est pécheur. On est rebelle. Il faut apprendre les enfants l'obéissance. Mais personne ne les apprend la désobéissance. C'est naturel ça la désobéissance. Donc il faut apprendre l'humilité. Sophonie 2, 3 nous dit « Cherchez l'Éternel, vous tous les humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Cherchez la justice, recherchez l'humilité. » Ce n'est pas accidentel. C'est une qualité qui n'arrive pas par accident. Donc le premier point, pourquoi est-il essentiel de se revêtir d'humilité ? Écoutez bien ceci, c'est parce que l'humilité nous permet d'entendre la voix de Dieu. Il faut être intentionnel pour se revêtir de l'humilité parce que, premier point, l'humilité nous permet d'entendre la voix de Dieu. Jean 10, 27 nous dit, comme disait le pasteur Bruno la semaine dernière, « Mes brebis reconnaissent ma voix et elles me suivent. » Vous savez, dans la parole de Dieu, les animaux représentent, sont souvent des symboles. La colombe qui vient sur Jésus représente la paix. La brebis représente l'humilité. La brebis est un animal qui sait qu'il a besoin d'un berger, d'un guide pour être dirigé. La brebis est un animal docile. Et quand Dieu dit que mes brebis entendent ma voix, c'est comme s'il disait, ce sont les humbles qui entendent ma voix. Les humbles entendent sa voix. Psaume 119, verset 67 nous dit, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Roi David dit, avant j'étais un peu à l'ouest. Après un peu de coup de bâton, maintenant j'écoute. Psaume 119, verset 71 nous dit « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » L'humilité donc nous permet d'entendre la voix de Dieu, mais l'humilité aussi en puissance et donne la force à la parole de Dieu. Jacques 1, verset 21 nous dit « Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. » La parole a le pouvoir de vous sauver. Mais il faut la recevoir avec humilité. Ça signifie que l'humilité est l'ingrédient qui va déclencher la puissance de la parole qu'on reçoit. La parole est remplie d'elle-même de la puissance. Mais ce qui va permettre à cette puissance d'être débloquée et d'être manifeste au travers de nous, c'est l'humilité. Vous savez, Jésus dit dans les évangiles aux pharisiens religieux, vous remplacez la parole de Dieu par votre tradition, par vos coutumes. Il est en train de dire, vous étouffez la puissance de la parole de Dieu avec vos traditions faites d'hommes, qui viennent de la parole de l'homme. Le problème de l'incrédulité, c'est que l'incrédulité étouffe la puissance que contient la parole. Mais l'humilité, en puissance, donne de la puissance, fortifie, libère la puissance que renferme la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit « Recevez avec humilité la parole ». Car elle a le pouvoir, la puissance, la force de vous sauver, de vous délivrer, de vous libérer. Donc, premier point, pourquoi est-il essentiel de rechercher, de se revêtir d'humilité ? Parce qu'elle nous permet d'entendre la voix de Dieu et elle en puissance la parole de Dieu. Deuxième point maintenant, pourquoi est-il important de se revêtir d'humilité ? Parce que l'humilité attire l'intervention de Dieu comme un aimant. Sur vos feuilles, vous avez des passages en 2 Chroniques 33, mais je ne vais pas vous lire parce que c'est assez long. Et j'aimerais juste vous prendre l'exemple de deux rois. Mais si vous avez l'occasion, c'est une opportunité pour aller étudier la parole de Dieu dans la semaine. Allez lire 2 Chroniques 33 et 2 Chroniques 34. L'histoire des deux rois que je vais vous raconter sont dans ce passage. Le premier, c'est le roi qui s'appelle Manassé. En créole, Moinassé. Et Manassé, c'est un des pires, un des plus mauvais rois que Israël ait compté. C'est le roi qui faisait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Il adorait les idoles, il dressait des cultes aux faux dieux, il a tué ses fils, il consultait les devins, les sorciers, il faisait des cultes aux morts. C'était le pire roi qui existait. Et tellement qu'il était à l'ouest, malheureusement, voici ce qui arriva dans 2 Chroniques 33, verset 11. À partir du verset 11. Alors l'Éternel fit venir contre eux, contre Manassé et Israël, les généraux du roi d'Assyrie, qui capturèrent Manassé. Ils lui mirent des crochets au nez, l'attachèrent avec des chaînes de bronze et l'emmenèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu. Il s'humilia profondément devant le Dieu de ses ancêtres. Il le pria et l'Éternel l'exauça. Il écouta sa supplication et le fit revenir à Jérusalem dans son royaume. Ainsi Manassé comprit que l'Éternel seul est Dieu. Le pire de tous les rois faisait tellement n'importe quoi. Il ne respectait pas l'alliance, comprenez bien. Sous l'ancienne alliance, ce n'est pas que Dieu voulait corriger. Dieu n'aime pas corriger. Mais il a tellement pas écouté, il a tellement fait ce qu'il ne fallait pas faire, que les conséquences de l'alliance lui tombaient dessus. Et il est ramené à Babylone comme un cochon, deux fers dans son trou de nez. Tellement il faisait n'importe quoi. Mais à Babylone, ce roi-là s'humilie. Il fléchit les genoux. Et en un instant, Dieu le rétablit et le redonne son royaume. Waouh ! La Bible dit que la colère de Dieu dure un instant, mais sa miséricorde durera toujours. Lamentations 3:32 nous dit « Mais s'il afflige, il aura aussi compassion selon son grand amour. Ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie et qu'il afflige les humains. » Nahum 1:12 nous dit « Ainsi parle l'Éternel. Quoique intacts et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront. Je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. » Dieu ne prend pas plaisir à humilier ceux qui font n'importe quoi. C'est comme si tu es parent dans ce lieu, quand tes enfants font n'importe quoi, tu n'as pas envie de les corriger. J'aime pas corriger mes enfants. Mais tu es obligé des fois, par amour. Dieu n'aime pas nous humilier parce qu'il nous aime. Et il dit, je t'humilie afin de ne plus avoir à t'humilier. On sert un grand Dieu. Mais celui qui s'humilie lui-même n'a pas besoin d'être humilié. C'est bon, ça. C'était une petite parenthèse. On va voir ça la prochaine fois. Donc on a vu l'histoire ici de Manassé. Maintenant, on va voir l'histoire de Josias. Josias est le petit-fils de Manassé. Dieu avait assez vraiment à un moment donné. Et Josias, lui, par contre, à l'inverse de son grand-père, c'est un roi au top. Lui, il marche dans les voies de son ancêtre David. Ce roi-là, toutes les nations aimeraient un roi comme ça. C'est un roi extra. Franchement, il est top. Il fait tout bien. Tout ce que son papy a fait de mauvais, il rase tous les idoles, il purifie le temple, il purifie Jérusalem, il purifie Juda, il purifie Israël, il brise tous les autels faits aux idoles, vraiment les prêtres de vin, tout ça, il les extermine dans l'amour. Et bref, il met tout sous l'ancienne alliance en ordre pour Dieu. Tout est ok avec Josias. Et pendant qu'il faisait le ménage à Jérusalem et en Israël, pendant le temple, il purifiait le temple, c'est les serviteurs du temple trouvent la parole de Dieu. Et ils viennent lire la parole de Dieu pour Josias, parce que la parole de Dieu avait été oubliée depuis voire un siècle, voire des dizaines d'années. Peut-être Ézéchias l'avait trouvée, Ézéchias c'est le papa de Manassé. Donc en tout cas, depuis Manassé, elle avait disparu. Et là, quelques années après, on retrouve. Et quand il lit le livre, la Bible dit ceci, lorsqu'il lit le livre, au verset 14. Au moment où l'on retira du coffre l'argent qui avait été apporté au temple de l'Éternel, le prêtre Hilkia découvrit le livre de la loi de l'Éternel transmise par Moïse. Verset 19. Lorsque Josias entendit le contenu de la loi, il déchira ses vêtements. Autrement dit, il s'humilia. Parce qu'il avait vu que, waouh, le peuple, avec tout ce qu'il a dû faire comme purification, était vraiment allé à l'encontre du livre de la loi. Et il s'humilie devant Dieu. Mais il est inquiet, il se dit, bon, est-ce que tout ce que j'ai fait va permettre à Dieu d'épargner le peuple? Ou est-ce que le jugement est toujours maintenu parce que mes prédécesseurs avant moi ont fait n'importe quoi? Il a besoin d'interroger Dieu et il demande à ses généraux d'aller questionner une prophétesse qui s'appelle Huldah. Et ils vont questionner Huldah pour voir quel est le jugement de Dieu, quelle est la sanction par rapport à ses prédécesseurs et lui qui a bien fait les choses, pour voir où on en est. Et au verset 23, voici ce que Huldah dit. Alors Huldah leur dit, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Annoncez à l'homme qui vous a envoyé à moi ce que l'Éternel dit. Je vais faire venir un malheur sur cette contrée, sur ses habitants, en accomplissant toutes les malédictions inscrites dans ce livre qu'on a lu devant le roi de Juda. En effet, parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont fait brûler des parfums à d'autres dieux, et parce qu'ils m'ont ainsi irrité par toute leur conduite, ma colère s'est répandue sur ce lieu et elle n'est pas près de s'apaiser. Verset 26. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tu as entendu les paroles contenues dans ce livre. Ton cœur s'est laissé toucher. Ton cœur s'est laissé toucher. Tu t'es humilié devant Dieu en entendant ce qu'il a décrété contre ce lieu et contre ses habitants. Tu t'es humilié devant moi, tu as déchiré des vêtements, tu as pleuré devant moi. De mon côté, moi aussi, j'ai entendu ta prière. L'Éternel le déclare. Ensuite, Dieu dit, parce que tu as fait ça, parce que tu t'es humilié, le malheur ne viendra pas pendant ton règne. Mais ce qui est extraordinaire pour nous de comprendre, c'est que d'un côté, on a le grand-père Manassé, pire des rois, très mauvais, qui fait n'importe quoi, emmené captif, dès qu'il s'humilie, Dieu le rétablit. D'un autre côté, le petit-fils, Josias, top, top roi, il fait tout ce qu'il faut, intègre, honnête, marche dans la vérité, retrouve le livre de la loi, s'humilie par rapport à ce que son grand-père et les autres ont pu faire. Va chercher la voix de Dieu au travers d'une prophétesse. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit à Josias, parce que tu t'es humilié. Dieu ne dit pas à Josias, parce que tu as fait des bonnes œuvres. Dieu ne dit pas à Josias, parce que tu as marché dans l'intégrité. Dieu ne dit pas à Josias, parce que tu as détruit toute l'idolâtrie en Israël. Dieu dit, parce que tu t'es humilié. Il y a la puissance dans l'humilité. L'humilité attire comme un aimant l'intervention de Dieu. Dieu dit à Josias, parce que ton cœur s'est laissé toucher. Parce que lorsque tu as entendu la parole, ton cœur s'est laissé toucher. Tu n'as pas résisté, tu t'es humilié. Voilà pourquoi je vais retenir le malheur. Waouh ! Et j'aimerais te dire la chose suivante. Choisir de se revêtir d'humilité, c'est un choix de cœur. Toi et moi, dans la vie, nous traversons des bonnes saisons et des mauvaises saisons, comme tout le monde. Personne n'est épargné. Les tempêtes arrivent pour tout le monde. Mais lorsque les tempêtes, l'adversité arrive, les difficultés arrivent, nous avons un choix. Quel choix nous avons ? Peut-être que tu n'as pas le choix de choisir les circonstances qui te frappent. Elles frappent parfois sans que tu aies choisi. Mais nous avons tous le choix de choisir comment réagir dans les circonstances. Ça, le choix nous appartient. On ne choisit pas les circonstances qui nous tombent dessus parfois, mais on a toujours le choix de choisir comment réagir dans les circonstances qui nous tombent dessus. Et là, tout dépend de l'attitude de notre cœur. Lorsque l'adversité arrive, est-ce que ton cœur blessé va s'offenser et rester infecté? Ou est-ce que ton cœur blessé par la tristesse ou la dureté de la situation va juste être brisé et apprendre à marcher dans l'humilité? Le choix nous appartient. Parce que l'adversité provoque deux types de tristesse lorsqu'on les traverse. Et cela dépend de notre cœur. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 9, nous dit ceci. Mais maintenant, c'est l'apôtre Paul qui parle, je suis dans la joie. Ce n'est pas à cause de votre tristesse, mais parce que cette tristesse a changé votre cœur. Elle a plu à Dieu et ainsi, nous vous avons fait aucun mal. En effet, la tristesse qui plaît à Dieu change notre cœur pour nous rendre meilleurs. De cette façon, nous pouvons être sauvés et nous n'avons pas à regretter cette tristesse. Mais la tristesse qui ne change pas le cœur produit la mort, les remords. Votre tristesse a plu à Dieu. Regardez maintenant les résultats. Mais oui, quelle rapidité pour agir. Quelle excuse, quel regret, quelle peur de mal faire, quelle envie de me revoir, quelle ardeur, quelle volonté de punir le coupable. En tout cas, dans cette affaire, vous avez montré que vous étiez innocent. Waouh ! Ici, l'église de Corinthe et dans l'adversité. L'apôtre Paul les écrit une lettre, la parole de Dieu, et les met face à la vérité. Ils ont le choix, comme Josias, soit d'être offensés, ou soit de s'humilier. En fonction de notre choix, la tristesse que va produire l'adversité va soit produire la vie, sans aucun regret, et rendre nos cœurs meilleurs, ou soit produire la mort, c'est-à-dire les remords. Nous ne choisissons pas parfois les circonstances que nous traversons. Mais nous avons le choix de choisir comment réagir dans les circonstances. Cela dépend de notre cœur. Donc ce matin, j'aimerais t'encourager si tu veux attirer l'intervention et la main de Dieu dans ta vie. Ne cherche pas à mettre les excuses ou la faute sur ton passé, sur tes parents, sur ton travail, sur tes finances, sur tes collègues, sur tes ennemis, sur ta femme, sur ton mari. Ce que je t'encourage ce matin, c'est quelle que soit la situation dans laquelle tu traverses, tu as le choix de juste pouvoir t'humilier devant Dieu et de dire, Seigneur, je choisis de bien réagir dans l'adversité, de ne pas répondre au mal par le mal. Mais je choisis de répondre au mal par le bien. Et je m'humilie devant toi. Parce que le dernier point qu'on voit ce matin, pourquoi est-il important de se revêtir d'humilité? C'est parce que Dieu résiste aux orgueilleux. et il fait grâce aux humbles. Et toi et moi, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de sa grâce. 1 Pierre 5:5 nous dit, de même, vous jeunes gens, soyez soumis aux anciens et ayez tous de la soumission l'un pour l'autre. Soyez parés par-dedans d'humilité, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'orgueil va pousser Dieu à être notre adversaire et à nous résister. Et je te dis ce matin, vaut mieux avoir Satan et tous ses démons comme adversaire que Dieu. Parce que si Satan et ses démons nous résistent, mais qu'on a Dieu, ils ne résisteront pas longtemps. Mais si à cause de notre manque d'humilité, on reste dans l'orgueil, ça va être maf. Très maf. Ça risque d'être dur. Parce que là, même Dieu va dire non. Mais si on choisit de dire non, Seigneur, je vais m'humilier devant ton trône. Je vais m'humilier devant ta face. Je vais m'humilier peut-être pour ma famille qui ne te connaissait pas, qui a fait de la sorcellerie, qui a fait n'importe quoi. Je vais m'humilier et demander pardon pour eux. Comme Josias, j'ai moi accès au livre de la loi, à la vérité qui libère. Mais je ne veux pas juger, je veux aimer. C'est ce que Dieu veut. Jacques 4, verset 10 nous dit, humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Comment s'humilier? Voici une façon. Ne parlez point mal les uns des autres. Frère, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas l'observateur de la loi, mais tu t'en fais juge. Et je priais ce week-end pour l'Église, pour vous, frères et sœurs. Et l'Église, malheureusement, est la seule armée qui achève ses soldats blessés. La seule armée où les soldats, parfois, se critiquent les uns les autres. Bam, bam. Dieu dit, humilie-toi. Comment? Arrête de parler mal de ton frère. Arrête de parler mal de ta sœur. Arrête même de parler mal de toi-même. C'est ça l'humilité, entre autres. Et il va arrêter de te résister. Et alors tu vas obtenir la grâce. Et l'intervention de Dieu va se manifester. Alors arrête de mal parler. Ne critique pas. Et si quelqu'un te critique, voici ce que je te propose comme solution. Si les gens te critiquent, voici des options intéressantes. Soit la critique est vraie, et si ce qu'ils disent est vrai, alors remercie le Seigneur, car vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Si la critique est fausse, alors remercie le Seigneur. Tu sais que tu n'es pas comme ça. Gloire à Dieu. Si la critique est en partie fausse et en partie vraie, alors pour ce qui est vrai, remercie le Seigneur et change. Et pour ce qui est faux, remercie le Seigneur. Tu n'es pas comme ça. Amen. C'est une bonne solution, ça. Mais c'est ça, par exemple, apprendre à s'humilier et ne pas mal parler des uns des autres. Éviter les querelles. La Bible dit que toute dispute vient de l'orgueil. Dans les couples, il y a beaucoup de disputes parfois parce qu'il y a beaucoup d'orgueil. Ma femme est comme ci, mon mari est comme ça. On ne voit pas l'autre au-dessus de nous-mêmes. On voit l'autre en dessous, on est écrasé encore un peu plus. Mais ça ne doit pas être comme ça pour les enfants de Dieu. Si tu veux plus de grâce, si tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, marche dans l'humilité. 2 Chroniques 7, verset 14 dit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Waouh! Dieu n'a pas besoin d'un parti politique pour guérir le pays. Gloire à Dieu pour les partis politiques. Mais pour guérir une nation, Dieu veut que son peuple s'humilie. Dieu veut que son peuple apprenne l'humilité. Tu veux que son peuple puisse revêtir l'humilité. Donc ce matin, avant de terminer, j'aimerais vraiment qu'on puisse prier pour vous un instant. J'aimerais vous demander au groupe de louanges de venir et prendre quelques minutes, frères et sœurs, pour prier pour vous. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux un moment, s'il vous plaît ?